Jazz Corner. Antoine Marc Christian. Pour Art District Radio.
C'était l'événement principal du Jazz District Festival qui a eu lieu à la Fondation Good Planet le 27 août dernier. Il s'agit bien évidemment du Benjamin Petit Quartet, un jazz coltrénien, un jazz aérien, un jazz donc de haut vol, à l'occasion de la sortie de son album Dear John, non pas en hommage à John Coltrane, mais à un autre John qui est John Williams, compositeur de musique de film et notamment de la musique de Star Wars. On a passé un bon petit moment, lui et moi, après le concert, à bavarder. Je vous laisse en profiter et on se retrouve juste après. Avec Benjamin Petit, juste après son concert au Jazz District Festival. Ben, déjà, comment ça va ?
Bonsoir, je ne sais pas quelle heure il est.
Il est pilote d'avion, donc il est en jet lag perpétuel, c'est pour ça, il faut le savoir, mais on reviendra sur cette histoire.
Alors, bonjour à tous, oui, ça va super, écoute, je te tutoie parce qu'on se connaît, ça va super et on a passé un très beau moment sur scène de cohésion entre nous quatre. Déjà de musique, d'amour, c'était plein de super belles émotions. Et avec le public qui a reçu ces morceaux-là et l'arrangement que j'en ai fait, etc. C'était un peu la première fois qu'on les faisait sur scène, puisque le disque n'est pas encore sorti. Donc c'est une espèce de pré-découverte. Et on est tous très contents. Le label, Didier et Julie du label Art District m'ont dit, le public a adoré, j'ai eu des bons retours, donc voilà, ouais, je vais bien.
Il y a même eu une standing ovation à la fin, c'est à noter quand même.
Alors ça,
c'est pas rien.
Écoute, tu vois, j'avoue, rien. J'étais tellement dans la musique, je regardais pas les gens parce que j'étais face aux musiciens, et à un moment donné, effectivement, je me suis retourné vers le public, j'ai vu qu'il avait la moitié des gens debout, et j'ai trouvé ça hyper chouette, effectivement, donc ouais, franchement, très beau concert, très content, très, très heureux.
Moi, je confirme, j'abonde dans ton sens. Moi, j'étais du côté public, évidemment. Vous soignez très bien, parce qu'on sait qu'effectivement, quand on est sur scène, on n'a pas la même perception, hein, tout simplement. Ça sonnait vraiment très bien, c'était magnifique. Il y avait une superbe écoute. Je crois que t'as envoûté le public, hein, concrètement. Hein,
Écoute, je ne sais pas faire autrement. Comment te dire ? Non, je rigole.
Le charmeur des serpents.
Je rigole, évidemment. Non, écoute, un public a été sensible à la musique et je pense aussi, comme on est très très amis avec les trois musiciens avec qui j'ai la chance de jouer, donc Rémi Vignolo à la contrebasse, Raphaël Panier à la batterie et la jeune pianiste russe Yulia Perminova, on a enregistré le disque. Bon, c'était Jérémy Bruyère sur le disque, mais qui malheureusement n'était pas disponible et au final on a intégrer dans ce groupe-là une nouvelle tête qui est Rémi Vignolo, qui est l'immense contrebassiste que je pense tout le monde connaît, si on écoute un petit peu de jazz. Et il y avait beaucoup d'envie, beaucoup d'amour de chacun et tout. Et au final, je pense que les gens ont reçu tout ça. Ils ont reçu de la musique. Comme tous les concerts, il y a des choses où on est tombé pile les uns avec les autres, tu sais, dans une espèce d'adéquation parfaite. Et puis des moments où on s'est cassé un peu la gueule, comme quand tu fais de la musique un petit peu comme ça, un peu écrite avec des arrangements qui peuvent être un peu difficiles. On n'a pas fait beaucoup de concerts, c'est un peu le premier.
Oui, oui.
Donc on a vu les morceaux en répétition hier. Voilà. En fait, ces musiciens, donc Julia et Raphaël, avaient joué ça il y a un an au moment de l'enregistrement du disque. Mais tu vois, il faut réactiver les connexions synaptiques et donc que les choses reviennent un peu dans... Et donc, il y avait une forme un petit peu d'attention, comme ça, à pas se gourer sur quelle partie vient, tout ça. Donc, il y avait forcément des petits accidents, mais au final, globalement...
En même temps, c'est de la musique improvisée.
C'est de la musique improvisée.
Ça fait partie de ça. Hein.
Exactement.
Donc, en fait,
il y a quand même eu, malgré les petites gaufrades très légères, à peine audibles, j'ai l'impression, nous, on le sait, mais finalement, la musique était
côté
quand même...
scène uniquement. Hein,
voilà. Mais il y a ça, je te le dis, puis tu étais musicien aussi, il y a ça dans tous les concerts, on le sait, mais moi je suis très content, je suis dans la redescente, là, l'espèce de béatitude d'après.
C'était un décollage.
Ouais, effectivement.
Pour me concentrer là sur cet album à venir, moi je ne savais pas que tu faisais un hommage aux musiques de John Williams, et je te le dis par hasard, je ne sais pas pourquoi, mais moi je me suis téléchargé toutes les musiques de Star Wars récemment,
et
puis t'as ouvert sur un thème qui s'appelle c'est Yoda et la Force, hein, je crois.
Non, en fait, il y a plus. En fait, si tu veux.
De la Force.
En fait, écoute, je vois que tu connais bien tes classiques. En fait, ce leitmotiv de cette mélodie-là est présente à différents moments et donc est réutilisée dans plusieurs morceaux qui portent différents noms. C'est le truc, les gens connaissent. Et donc, cette mélodie-là. Elle est effectivement resuggérée dans tel passage. Certains pensent que c'est le thème de Luke Skywalker, le thème de Yoda. Et en fait, dans le tout premier épisode, Star Wars épisode 4, A New Hope, Un Nouvel Espoir, ça vient à la fin du film, quand ils vont remettre les médailles. Et donc ça s'appelle... À ce moment-là, The Throne Room.
Je suis d'accord avec toi qu'en fait, moi, il apparaît dans la scène où il y a Yoda, mais c'est vrai qu'il n'a pas de titre, c'est un leitmotiv.
C'est
moi, j'appelle ça juste le thème de la Force.
Alors après, quand tu regardes dans les. Effectivement, ils ont distingué plusieurs titres, mais John Williams, quand il a écrit son habillage musical du film, il ne voyait pas des morceaux sur un disque, en fait. Il voyait des scènes et donc les morceaux sont divisés, ont été subdivisés derrière pour faire le disque, évidemment. Mais ce thème-là revient à plusieurs moments, sous plusieurs noms. Donc moi, j'ai décidé de l'appeler la salle du trône, The Throne Room, parce qu'à ce moment-là, c'est là que la princesse Leia remet les médailles,
etc.
Et donc, il y a une espèce de truc un peu grandiloquent. Voilà, et donc, c'est la même mélodie, mais jouée en... Tu vois, du coup, moi, j'ai chopé ce titre-là, mais ça peut être comme tu dis.
Il apparaît à plusieurs moments. Tu as joué aussi des musiques d'Indiana Jones, il y a eu un thème d'Harry Potter.
Tout à fait.
Moi, ce que je trouve intéressant et ce qui m'a vraiment marqué, tu vois, c'est cette démarche d'aller chercher de la musique populaire, parce que les musiques de films maintenant c'est devenu vraiment des musiques populaires, et il y a une tradition dans le jazz de ça quand même.
Et c'est exactement
ça, que,
ça
parce que Coltrane fait quand même de My Favorite Things un standard énorme, et ça vient d'un musical qui est de Sound of Music. Donc qu'est-ce qui t'a animé
de ce côté-là? T'as très bien résumé tout ça. Je vais prolonger ce que tu dis. C'est dans la tradition des musiciens de jazz où une certaine époque allaient puiser des sources de réinterprétation de grandes mélodies des comédies musicales de Gershwin, de Cole Porter, de même de classiques, etc. Et des musiques de films aussi, et se les approprier pour en faire, et c'est devenu des standards de jazz. Un Walt Disney comme Un jour mon prince viendra, mm-hmm. c'est devenu Someday
c'est
my prince will come.
Que d'ailleurs tu as joué sur ça.
Alors non.
T'as joué une partie.
Ouais, j'ai fait. Un,
non,
c'est pas.
Fait une citation,
non. Oui. Alors je l'ai cité, mais surtout le thème que j'ai fait, c'est Cendrillon. C'est un autre. C'est Dream is a wish your heart makes. C'est ça, la mélodie est assez,
ouais,
assez proche.
Semblé, vois, ouais,
la mélodie.
Confondu,
la différence, c'est que a dream, c'est ta da 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 da. Alors que Someday my prince will come, c'est Someday my prince will come.
Ouais, ta da,
c'est très ressemblant. Donc effectivement, on peut. Ben, en gros, il y en a un qui vient de La Belle au bois dormant, je crois, il me semble.
Oui, oui,
Un jour mon prince viendra, Someday my prince will come. Mais tu vois, Miles Davis avait fait sa version, par exemple.
Oui, et d'ailleurs, tu vois, j'allais en parler parce que c'était effectivement dans le dernier Miles Davis, c'est celui-là où il jazzifie des titres de musique populaire. Il y a Time After Time, il y a Human Nature.
Exactement, ça c'est beaucoup plus récent.
J'ai lu récemment qu'il voulait faire un album en fait. Intégrale de musique pop,
des chansons, ouais.
Maxifié, j'ai envie de dire, ouais. Et on lui a dit non. Moi, apparemment, on lui aurait dit non.
Alors, je sais, on a déjà eu des discussions parce qu'on se connaît, toi et moi, et je sais que t'es passionné, que t'es très bien renseigné au niveau sur toutes ces histoires-là d'anecdotes. Alors, je t'avoue, celle-là, moi, je connaissais pas, mais comme tu l'as dit, effectivement, ça a toujours été dans le jazz.
Ouais.
D'aller.
C'est important d'ailleurs.
Voilà, il y a la partie composition. Bon, tous les musiciens de jazz, à un moment donné, s'aventurent aussi à créer leur propre mélodie, mais le jazz dans son identité a souvent été chercher des mélodies populaires et simples, et les musiciens se les sont appropriés, donc en mettant du swing là où il n'y en avait pas, où on sent des choses, et c'est ce que j'ai eu un peu envie de faire avec des morceaux de John Williams, avec des morceaux aussi de musique classique comme Sherazade de Korsakov, comme le thème donc de Cendrillon qu'on a joué tout à l'heure. J'ai eu envie de faire ça. J'ai fait un premier disque qui est sorti en 2017 où j'avais fait quasiment exclusivement de la composition. Mais il y a un morceau de ce disque où c'est Colchic dans les prés que j'avais eu envie de réadapter comme ça dans cette espèce de démarche. Et en fait, là, je me suis dit, tiens, je vais prolonger cette démarche. Ces mélodies-là me parlent depuis que je suis tout petit. Ces films-là m'ont parlé. Ces scènes d'avions qui traversent sur une carte dans Indiana Jones où tu vois le tracé sur la carte, c'est des choses qui m'ont fait rêver moi quand j'étais gosse, qui m'ont donné envie d'être dans ces avions là aussi. Tu sais que j'ai une partie de ma vie qui se passe aussi dans les avions, donc en fait tout ça est très très authentique, très proche de ce que je suis, et je trouvais que c'était vraiment la manière la plus honnête et directe de faire un deuxième disque. Voilà,
ça permet de faire découvrir le jazz, de le faire aimer.
Exactement, c'est une connexion.
C'est important, c'est pas rien.
Une connexion entre un monde qui n'est pas de jazz, les gens qui connaissent ces mélodies-là, qui connaissent Star Wars, qui connaissent la musique d'Harry Potter, qui l'aiment bien, et qui la réentendent dans un autre contexte. Là, Harry Potter, on en a fait une version un peu boogaloo, New Orleans, très dansante et tout. Et c'est un morceau normalement qui est en trois temps. Et là, on a fait un truc binaire. J'ai eu envie de faire groover ça, donc j'ai fait ça, j'ai arrangé ça comme ça. On l'a joué avant d'enregistrer ça l'année dernière avec tout le monde, et ça marchait super. Et voilà, donc on fait une espèce de connexion, comme tu dis. Voilà, on ramène des gens qui connaissent ces mélodies-là, mais qui connaissent pas le jazz, et on leur donne du jazz.
C'est important. Moi, je dis, c'est mon avis personnel. Ouais. Moi, je trouve que c'est une des traces.
C'est une vraie démarche,
Voilà,
démarche populaire.
Les artistes qui le font justement, qui font cette connexion-là. Et juste, j'ai une petite question un peu fun. Donc oui, t'es un musicien accompli. Enfin,
merci beaucoup.
Aucun doute sur ça. Et en même temps, t'es aussi pilote de ligne. Moi, je t'appelle le Syntex du jazz.
C'est très très flatteur. Oui, parce que
jazz, parce que
c'est très flatteur. Bah, déjà, merci. aussi, c'est assez. C'est vrai que c'était un immense poète, écrivain et aviateur et aventurier. Et c'est une époque où, effectivement, il y avait de la poésie. Quand tu partais en avion, il y avait une forme de poésie.
C'était, ça inspire aussi.
Oui, et c'était moins un boulot qu'aujourd'hui. C'était une autre. C'était, à l'époque, c'était pas des. Mais c'était. Comment dire aujourd'hui, c'est devenu un petit peu, on va dire, plus accessible. Les précurseurs, les pionniers de l'aviation, quand ils partaient sur un vol, ils avaient une chance sur quatre de ne pas rentrer en vie. D'ailleurs, ça a été le cas. Enfin, il a eu quand même une vraie galère dans le désert, Mister.
De toute façon, le Petit Prince.
Le Petit Prince, c'était
sur
ça.
Situation-là.
C'est vrai qu'il a vécu. Donc, voilà, c'est une autre époque. Donc, on peut le comparer dans certaines limites, mais en tout cas, ça me touche.
Si tu veux, ça peut être le Lindbergh, tu vois, genre.
Ouais. Mais le fait d'avoir, tu sais, alors tout le monde n'est pas dans mes collègues, les pilotes avec qui je travaille. Tout le monde n'est pas artiste, hein, c'est bien sûr que c'est. Mais il y a une forme un peu de poésie quand même, parce que c'est pas un job, pilote de ligne. C'est un truc dont tu rêves depuis que, souvent, dont tu rêves depuis
que t'es.
Voilà, c'est vraiment un rêve de gosse d'aller dans les nuages, de piloter ces machines incroyables, etc., de traverser les océans, d'aller de l'autre côté du globe. C'est un truc de passionné. C'est rarement un truc que tu fais parce que tu sais pas quoi faire, tu veux pas faire autre chose, donc tu fais ça. Du coup, il y a quand même des rêveurs pas mal. Et chez les artistes aussi, il y a beaucoup de rêveurs. Donc il y a une forme de population. Aussi, il y a des connexions aussi, pas des connexions, je veux dire, mais des points communs qui sont dans le mode de vie également.
Oui, t'es en jet lag.
Voilà, c'est des gens qui voyageurs, qui sont voyageurs, qui sont globetrotters. C'est des gens qui aiment ne pas être dans le moule de la norme du travail régulier dans un bureau, donc ils sont toujours en décalage et tout. Donc c'est deux populations qui s'entendent assez bien, au final, les musiciens et les navigants. Et moi, je suis un peu les deux.
Y a un morceau, moi, qui me vient en tête et que j'aime beaucoup et que je bosse en ce moment. Alors, c'est un morceau de clarinettiste, mais c'est Flying Home. Tu l'écouteras, c'est un swing de Benny Goodman.
Ouais.
Dessus, il y a Charlie Christian, il y a Lionel Hampton. Et
ouais.
C'est un morceau, tu me diras ce que t'en penses. Mais vraiment, il est très, tu vois, très majeur, très... il s'appelle Flying Home.
Flying Home.
J'ai une petite pensée pour toi, tu vois. Quand
mais il y a plein de thèmes, il y a plein de chansons, tu sais. Straighten Up and Fly Right.
Fly Me to the Moon.
Fly Me to the Moon, ouais. Il y a beaucoup de, chez les musiciens, il y a beaucoup de rêveurs aussi, de gens qui rêvent d'aviation. D'ailleurs, je le vois, moi, tu sais, au quotidien. Sachant que maintenant, bon, j'ai cette réputation-là qui me précède, je suis saxophoniste et les gens savent, ils associent ça, ils savent que j'ai ce double cursus un petit peu atypique. Quand on vient me voir, on vient souvent plus me parler, les musiciens avec qui que je côtoie, ils viennent souvent plus me parler d'avion. Et j'en suis même limite frustré parfois, parce que moi, ça peut être des musiciens que j'admire et avec qui j'ai qu'une envie, c'est de parler musique, de faire de la musique. Et eux, ils viennent me brancher là-dessus parce que c'est ce qui les fascine, c'est ce qu'ils connaissent pas, tu vois. Donc ils rencontrent 40 musiciens par jour. Par contre, ils ne rencontrent jamais de pilotes.
Ah oui, mais c'est ce qui te distingue aussi.
Alors, j'en suis très content, mais voilà.
Moi, j'ai une petite question. Alors, c'est que tu as le temps quand même. Tu prends le temps de pratiquer, notamment dans tes escales.
Ouais.
Voilà. Alors, je connais déjà un peu la réponse, mais je voudrais quand même te poser la question. Moi, je voulais savoir si est-ce que tu t'es jamais permis de prendre ton sax dans le cockpit et dans un moment un peu calme que la business class est un petit solo pendant.
Alors je vais te le dire, en vol jamais.
Oui, je sais très bien que c'est.
Alors en vol, si je suis pilote du vol, évidemment non, parce qu'on a quand même d'autres choses à faire et tout. Et puis même si c'est un moment où, parce qu'on peut être 3-4 pilotes sur des vols très longs, tu sais, Santiago du Chili par exemple, qui fait 14 heures de vol, on est 4 pilotes. Donc il y a des moments où il y en a deux qui sont au cockpit et qui bossent, et puis tu en as deux qui sont en train de se reposer dans des postes.
Ouais.
Voilà, on a des couchettes à l'arrière du cockpit et tout. Donc ça pourrait être là. Mais en fait non, parce que temps-là, tu le prends vraiment pour te reposer, pour être intellectuellement vraiment d'attaque, j'ai pas le terme, mais il faut
alerte,
voilà, il faudra une disponibilité intellectuelle, une fraîcheur, etc. Ce sera toi qui sera en train d'exercer, donc non, à ce niveau-là non. Ça m'est arrivé entre deux vols quand je faisais du moyen courrier il y a très longtemps, sur une escale un peu longue, quand on était en train de se relaxer, l'avion au parking, etc. Les hôtesses étaient sur les sièges passagers, tout le monde se détendait, on, Il y en avait qui mataient un film, enfin, etc. Donc, et moi, j'avais le sax avec moi à ce moment-là. Je me suis mis dans le cockpit, j'ai fermé la porte. Et je l'avoue, j'ai bossé un peu mon... J'ai fait quelques gammes, j'ai bossé quelques licks de bop, etc. Et c'était une époque où je cherchais...
Sur Terre, il n'y avait pas de...
Voilà, non, non, bien sûr.
Rien, ouais.
Et puis, on attendait simplement que le prochain... Parce qu'il y avait un gap, je ne sais pas moi, d'une heure ou deux entre deux vols. Ah, donc, ouais. T'attends dans l'avion. Ça m'arrive plus, mais à cette époque-là, ça m'était arrivé... Et donc je l'ai fait une fois, je crois, ou une fois ou deux maxi.
Mais il y a ton ami qui est venu, donc j'ai pas le prénom, je suis désolé.
L'autre, un pilote, un ami pilote,
oui,
Charles.
Voilà, Charles, ouais. Et il m'a dit avec vraiment toute son admiration qu'il y a des moments où quand vous aviez trois jours, voilà, tu pouvais passer trois jours à bosser ton instru, tu vois.
En fait, c'est ce que je fais tout le temps, en fait. En fait, ma vie, elle est partagée, parce que j'ai quand même une fille qui vient d'avoir 8 ans. Donc, je suis séparé de la maman. Donc, elle vit quand même plus chez sa maman, mais je la vois le plus possible en fonction des dispos. Et à part le planning, donc famille avec ma fille, les moments où je suis avec elle, où je fais rien d'autre qu'être avec elle, et je profite d'elle, de sa présence, je veux dire, et elle est aussi avec moi, forcément. Et les moments où je fais les vols que je fais, et le planning tombe tous les mois, c'est régulier, etc. Tout le reste... Tout le temps, je ne fais que
c'est
ça.
Ce qui fait qu'en fait, tu travailles peut-être même plus que... Enfin, plus, je sais pas, mais autant.
Ouais,
temps de pratique.
Écoute, voilà, on va dire que j'ai... parce que c'est vrai que le fait d'avoir cette double carrière, ça m'abroge aussi de certaines autres contraintes que j'aurais si j'étais que musicien. Et au final, une dispo, finalement. Alors, je sais pas. Après, c'est difficilement quantifiable. Mais oui, je passe beaucoup d'heures à bosser mon instrument. Je passe beaucoup d'heures aussi à travailler sur mon projet, mais principalement le travail de l'instrument. Écoute, là, c'est simple, pendant la phase du confinement, parce qu'on vient quand même de vivre quelques années un peu particulières. Et en 2020, moi, j'étais au sol, pas de concert, pas de vol. Donc pendant 6 mois, j'ai eu aucune activité, on va dire, de ce que je pratique. Faire, voilà. Donc j'ai vu un petit peu ma fille, on a passé un peu de temps ensemble, mais le temps où j'étais tout seul chez moi, j'ai fait que travailler et préparer ce projet. Et au final, ce disque Dear John qui va sortir dans un mois résulte directement d'un travail qui s'est fait à ce moment-là.
De cette période.
Voilà.
Ouais. Ça marche pas. Écoute, merci beaucoup. Madame.
Merci à toi.
Merci pour ce moment.
Et puis, ravi. Voilà.
J'ai envie de dire bon vol, tu vois, et j'ai entendu, t'as annoncé quelques dates, là ça sera en octobre.
En octobre pour la sortie du disque, ouais.
À l'entrepôt,
oui,
c'est ça,
ouais.
Et bien de toute façon on se reverra là, et puis peut-être avant si tu joues.
Ça marche.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà pour ce Jazz Corner en compagnie de Benjamin Petit, leader et compositeur dans le Benjamin Petit Quartet qui s'est produit le 27 août dernier sur la scène du Jazz District Festival à la Fondation Good Planet. Je voudrais le remercier chaleureusement des mots qu'il a bien voulu nous accorder. Et puis, je vous invite à découvrir évidemment son album Dear John, apparaître sur le label Art District très prochainement. Courant octobre, voilà, portez-vous bien, écoutez du jazz et que la force soit avec vous.